l'État soucieux de la sécurité des citoyens.
Hier, à Digne, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Bernard Guérin, a évoqué de nombreux thèmes, notamment sur la sécurité, nous l'entendrons dans un instant. Au programme aussi, l'agriculture, l'emploi, l'économie, l'aménagement du territoire et enfin, sujet brûlant, l'intercommunalité, nous aurons l'occasion d'y revenir. Dans ce premier entretien, Bernard Guérin fait le point sur la radicalisation et les moyens de prévention dans le département, puis sur l'accueil des réfugiés. Le préfet Guérin au micro d'Odile Frison lors d'un point presse.
Monsieur le préfet, Bernard Guérin, dans le domaine de la sécurité, vous avez parlé bien sûr de radicalisation. Combien de signalements de la plateforme du CNAPR dans notre département des Alpes-de-Haute-Provence ?
La plateforme du CNAPR, Centre d'assistance pour la radicalisation, a dû nous faire une trentaine de signalements, je pense. Et nous suivons une quarantaine de personnes qui présentent des signes faibles de radicalisation, au sens où leur comportement a évolué. Et où il nous faut nous assurer que c'est pas un comportement de personne qui se prépare à partir faire le djihad ou qui se prépare à commettre autre chose. Mais ça ne veut pas dire que nous ne continuons pas à les suivre. Certains le savent que nous les suivons, d'autres ne le savent pas.
Alors vous avez parlé d'une quarantaine de personnes suivies. Existe-t-il des mesures de prévention et de déradicalisation dans le département ? Et si oui, lesquelles ?
Oui, alors déjà sur les personnes que nous suivons, j'anime personnellement une réunion chaque semaine pour voir un peu quel est le niveau donc de radicalisation de ces personnes. Ensuite, après, nous avons une autre réunion avec le conseil départemental, avec la caisse d'allocation familiale, avec Pôle emploi, avec la maison des adolescents et l'association d'aide sociale à l'enfance, pour mettre en œuvre à l'égard des jeunes majeurs ou des mineurs des actions de déradicalisation qui consistent en fait à des accompagnements. Souvent, ce sont des accompagnements psychologiques. C'est aussi une recherche d'emploi pour certains. On constate que certains étaient dans le repli, identitaires pas toujours, mais en tous les cas dans le repli, le renfermement sur soi, et étaient séduits par les thèses. Alors pas pour perpétrer des crimes, mais peut-être pour se donner une identité, peut-être pour exister, peut-être pour montrer à une société qui ne leur avait pas permis de réussir, mais peut-être aussi parce qu'ils étaient un échec scolaire, d'avoir un emploi, d'avoir une famille, etc. Parce qu'un certain nombre d'entre eux viennent de familles déstructurée, il faut le dire. Donc il y a un accompagnement psychologique, un accompagnement professionnel, et je dois dire que ainsi on a réussi ce qui nous avait été signalé comme présentant des signaux même faibles, sont revenus à un comportement normal, citoyen, dans une société libre, comme nous sommes, avec la force et la faiblesse de notre société, qui quand même produit de l'exclusion, produit de la richesse, certes, du bien-être, mais en même temps des exclusions, hein, on le voit bien. Et donc, on a un certain nombre d'entre eux qui ont pu être rayés de la liste des personnes que nous suivons. Mais il y en a d'autres qui rentrent et nous essayons de surveiller. Si nous estimons qu'il y a des éléments de nature à montrer une radicalisation qui nous paraît pouvoir être dangereuse, à ce moment-là, nous informons le procureur de la République.
La France s'est engagée à accueillir 30 700 réfugiés d'ici 2017. Les services de l'État et les collectivités locales s'organisent pour faire face à l'urgence d'aide humanitaire. L'accueil des migrants qui, malgré une réunion publique, on a pu le voir dans la commune de Champtercier, continue à faire peur. Quelle est la situation dans le département ?
Je voudrais d'abord remercier les maires qui ont assuré cet accueil sans rechigner, tout en sachant la difficulté, parce que c'est vrai que une certaine partie de l'opinion publique est vent debout contre l'accueil des migrants. Mais comment peut-on être vent debout quand il s'agit d'un devoir humanitaire ? Il s'agit d'accueillir des personnes qui ont fui des guerres, qui ont fui des persécutions, qui ont été victimes de réseaux criminels, qui ont été malmenées, maltraitées. Certains même ont subi des situations d'esclavage. C'est à nous, évidemment, à mettre en évidence qu'il s'agit vraiment de demandeurs d'asile. Mais là, sur l'arrivée des personnes qui vont être déplacées de Calais sur les départements français, nous avons donc prévu d'en accueillir 140, 100 qui vont aller à Champtercier, 40 à Barcelonnette. Nous avons pris des précautions, nous connaissons déjà les personnes qui vont venir. Nous allons examiner dans le détail ce qui ne pouvait pas être fait dans les conditions de chaos de la jungle de Calais sur place. Donc il va nous falloir quelques mois pour établir qu'ils sont demandeurs d'asile, vraiment des demandeurs d'asile, ils repartiront avec le statut, ou alors sinon ils seront renvoyés. J'en ai ramené encore la semaine dernière, fait ramener à l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon, parce qu'effectivement ils n'avaient pas la qualité de demandeur, ils avaient été déboutés du droit d'asile. Voilà, donc ça sera pareil cette fois-ci, mais en attendant, nous sommes à peu près certains que 80% d'entre eux sont des vrais demandeurs d'asile. Ce sont des personnes qui ont vraiment fui les persécutions et pour lesquelles nous avons un devoir d'aide humanitaire.